L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur l'offrande qu'il me fera. Voici ce que vous accepterez en guise d'offrande. De l'or, de l'argent et du bronze, des fils de pourpre violette, de pourpre écarlate et de rouge éclatant, du fin lin blanc et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums à brûler, des pierres d'onyx et des pierres précieuses à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Ça, c'était la tenue du grand prêtre. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai le modèle du tabernacle et de tous les ustensiles qu'il contiendra, et vous exécuterez tout exactement selon ce modèle. Et puis ensuite les ustensiles. On fabriquera un coffre en bois d'acacia. Il aura 120 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Tu le plaqueras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu le garniras d'une bordure d'or tout autour. Tu couleras 4 anneaux d'or et tu les fixeras aux 4 coins du coffre, 2 de chaque côté. Tu tailleras aussi des barres de bois d'acacia et tu les plaqueras d'or. Tu les engageras dans leurs anneaux le long des côtés du coffre pour qu'on puisse le porter. Les barres devront rester en permanence dans les anneaux du coffre. On ne les retirera pas. Tu déposeras à l'intérieur de ce coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai. Cet acte de l'alliance, c'est ces 10 commandements dont il est question dans les chapitres précédents. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur de 120 cm de long et de 75 cm de large qui servira de couvercle pour le coffre. Tu façonneras au marteau 2 chérubins d'or massif et tu les fixeras aux 2 extrémités du propitiatoire. Tu feras un chérubin pour chacune des 2 extrémités du propitiatoire. Tu les feras en saillie sur le propitiatoire à ses 2 extrémités. Leurs ailes seront déployées vers le haut pour protéger le propitiatoire et ils se feront face, regardant vers le propitiatoire. Après avoir déposé dans le coffre l'acte de l'alliance que je te donnerai, tu placeras le propitiatoire dessus. C'est là, au-dessus du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur le coffre, que je me manifesterai à toi. C'est de là que je te communiquerai tous mes ordres pour les Israélites. Ouais, j'ai mis une représentation à partir de la description qui est faite là. Alors, c'est pas si exactement ça.
Donc on continue avec les ustensiles.
Avec une table, cette fois-ci au verset 23. Tu fabriqueras une table en bois d'acacia de 120 cm de long, de 50 cm de large et de 75 cm de haut. Tu la plaqueras d'or pur et tu garniras son pourtour d'une bordure d'or. Tu lui feras un cadre de 8 cm que tu garniras d'une bordure d'or. Tu feras 4 anneaux d'or que tu fixeras aux 4 coins de la table correspondant à ces 4 pieds. Dans ces anneaux placés tout près du cadre viendront s'insérer les barres destinées à porter la table. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu les plaqueras d'or. Elles serviront à transporter la table. Tu fabriqueras aussi des plats et des coupes, des carafes et des bols qui serviront aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu placeras sur la table le pain exposé devant moi. Il sera en permanence devant moi. Encore un autre ustensile, un chandelier. Tu feras un chandelier en or pur, travaillé au marteau. Tu le feras d'une seule pièce avec son pied, ses calices, ses boutons et ses fleurs. 6 branches en sortiront latéralement, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Chacune des 6 branches du chandelier portera 3 calices en forme de fleurs d'amandier avec le bouton et la fleur. Le pied portera 4 calices en forme de fleurs d'amandier avec le bouton et la fleur. Pardon, je me répète. Il y aura un bouton sous chacune des 3 paires de branches du chandelier. Ses boutons et ses branches seront avec lui d'un seul tenant. Le tout sera fait d'une seule masse d'or pur martelé. Tu fabriqueras aussi 7 lampes que tu fixeras en haut du chandelier, de manière à éclairer l'espace devant lui. Tu feras ses pincettes et ses mouchettes en or pur. On emploiera 30 de kilos d'or pur pour faire le chandelier et tous ses accessoires. Aie soin d'exécuter tout ce travail exactement selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Qu'est-ce que vous notez dans cette description, ces instructions sur la composition de ce qu'on appelle le tabernacle, qu'est-ce qui ressort bon.
L'or.
Quoi d'autre?
Le détail,
hein. Tout est détaillé, tout est bien précisé. Et à plusieurs reprises, l'Éternel dit, tu feras les choses exactement comme je t'ai montré. On parle même d'un modèle qui lui a été montré sur la montagne. Il y a d'autres choses que vous notez? C'est pur. Pureté, ouais.
C'est pas très grand.
C'est pas très grand.
Ouais.
Tout à fait. Ok. On voit tout est précis. Dieu donne des instructions. Ce lieu sera un lieu de culte, de rencontre avec Dieu. Et quand on rencontre Dieu, c'est quelque chose d'hautement important. Rien n'est laissé au hasard. On n'approche pas Dieu comme ça. Et Moïse doit bien écouter ce qui lui est dit pour bien faire les ouvrages comme il l'a dit. Chaque chose à sa place. Et puis tout est précieux parce qu'on va approcher le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très saint. Alors aujourd'hui, je vais prendre une prédication de Tim Chester, l'auteur qui a écrit ce commentaire et qui consacre un chapitre justement sur les chapitres 25 à 27 de l'Exode. Et on va voir tout ce qu'on peut recevoir de ce chapitre qui nous paraît un petit peu lassant, un petit peu technique, à part si on est ébéniste ou voilà. Donc voilà la façon dont il aborde ces chapitres-là, avec une question. En nous posant cette interrogation suivante, êtes-vous quelqu'un de plutôt nomade, quelqu'un qui aime le voyage, ou quelqu'un de plutôt sédentaire, quelqu'un qui aime plutôt rester à la maison? Par nomade, il entend cette personne qui court après la nouveauté, qui tient pas en place, qui s'arrête jamais, qui veut toujours explorer de nouveaux horizons, qui ne s'installe nulle part, quelqu'un qui aime voyager, tenter de nouvelles choses. Par sédentaire, il entend un homme ou une femme qui aime être à l'intérieur, voilà, qui aime peut-être aménager son foyer, quelqu'un qui a du plaisir à rester à la maison pour peut-être cuisiner, pour bricoler, qui va s'installer dans son canapé. Et qui n'attend qu'une chose, voilà, c'est pouvoir rentrer à la maison. C'est là que je me sens bien. Et peut-être vous êtes parfois un peu des deux, un peu parfois aventurier, parfois vous aimez aussi être à la maison. Et les deux choses, on peut les retrouver d'une certaine manière. Mais il y a toujours la même quête, c'est de trouver son chez-soi, c'est de trouver l'endroit où on est vraiment chez nous. Les nomades peut-être vont rechercher toujours ailleurs un endroit où ils se sentent chez eux, tandis que les personnes sédentaires vont essayer de se fabriquer cet endroit où ils sont bien, là où ils sont au moment même. Mais on aspire tous à un chez-nous. Et cette aspiration, dans un sens, on peut le lire dans toute l'histoire de la Bible. Parce que l'humanité a le sentiment tenace de ne pas vivre au bon endroit, et elle en souffre. Et une raison qui est mise en avant dans la Bible, c'est que nous avons été chassés de notre premier chez nous. Dieu a placé le premier homme et la première femme dans un jardin, le jardin d'Éden, d'après le livre de la Genèse. La nourriture y était abondante. Ils y étaient à l'abri. Ils y étaient en sécurité. Ils étaient chez eux. Ils étaient en harmonie, en communion avec leur Dieu, avec leur Créateur. Au centre de cette demeure se trouvait l'arbre de vie. Et comme je viens de le dire, le plus formidable au sein de ce jardin, c'était la présence de Dieu. L'humanité était chez elle, avec Dieu. Mais lorsque les premiers humains ont rejeté l'autorité de Dieu, ils ont été chassés, ils ont été exilés d'Éden. Et le texte dans la Genèse nous dit ceci. Après que les êtres humains se soient rebellés contre lui, l'Éternel Dieu le chassa, l'homme, du jardin d'Éden pour qu'il travaille le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de vie. Adam et Ève sont chassés à l'est d'Éden et il y a du coup ce sentiment de ne plus être chez soi, dans son chez-soi originel. Nous aspirons en quelque sorte à rentrer chez nous. Et dans le texte que nous avons parcouru dans le livre de l'Exode, il y a cette histoire, cette aspiration d'Israël à rentrer chez soi ou à entrer chez soi dans ce pays promis, ce pays de bénédiction où Dieu règne, où Dieu donne le bonheur, où Dieu donne une nourriture abondante. Israël est en train de rentrer à la maison alors qu'on est en train de lire ce livre de l'Exode. Ils ont quitté l'Égypte grâce à la puissance de Dieu. Ils ont traversé cette mer, ils ont parcouru le désert. Ils sont maintenant arrivés à la montagne, au mont Sinaï, où Dieu a fait alliance avec eux. Ils sont en route, ils sont en train de rentrer chez eux en se dirigeant vers le pays que Dieu veut leur donner, que Dieu leur a promis d'habiter. Mais quand ils y parviendront dans ce pays promis, ils découvriront que ce territoire n'est finalement qu'un pâle reflet de la véritable demeure éternelle. Et l'auteur nous propose que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles Dieu leur donne le plan du tabernacle. Cette tente, Terence a noté que c'était pas grand, c'est une tente qu'Israël doit construire exactement selon ce modèle. Ce qui laisse à penser que le modèle que Moïse a vu, c'est le modèle de la demeure céleste, en fait. Et que ce temple en est une sorte de réplique miniature. Et donc, ce plan que Dieu donne, ce tabernacle, est en quelque sorte une carte qui permet de retrouver le chemin du retour. Et vous allez voir comment tout dans ce tabernacle nous fait penser à ce chez nous, à ce jardin d'Éden, à la fois au niveau de l'architecture et du mobilier. D'abord, on l'a noté, la liste des matériaux utilisés. Elle commence par l'or, elle termine par des pierres précieuses, on mentionne l'onyx. Or, le texte de la Genèse lui-même nous indique qu'en Éden, on trouve un or d'une excellente qualité. On trouve aussi la pierre précieuse appelée onyx. On retrouverait ça dans Genèse 2, verset 12. Deuxièmement, le chandelier, décrit dans notre texte, avec tous ses bourgeons et ses fleurs. C'est un chandelier, il est ouvragé, il est travaillé artistiquement. Avec ses bourgeons et ses fleurs, il ressemble à un arbre. Le tabernacle ressemblera à un jardin au sein duquel un arbre est source de lumière. C'est un écho de cet arbre de vie au centre du jardin d'Éden. Troisièmement, le récit de la création avait précisé à 7 reprises, Dieu dit, vous savez, il y a cette succession des jours où Dieu prononce une parole créatrice, Dieu dit à 7 reprises. Or, dans les instructions reçues pour le tabernacle, il est dit à 7 reprises, l'Éternel parla à Moïse et dit. Et les deux récits se terminent dans l'Exode et dans Genèse par une description du sabbat, du repos de Dieu. Quand vous irez au chapitre 31 dans l'Exode, vous verrez que ça se termine par une mention du sabbat. La construction du tabernacle, c'est un peu la reconstruction du jardin d'Éden, notre chez-nous originel. Mais ce qui compte par-dessus tout, c'est la présence de Dieu. Tout dans ces chapitres nous parle de la présence de Dieu. Et là, il y a évidemment un écho énorme avec le jardin d'Éden. Israël a comme instruction de construire une tente. Alors, construire une tente, ça nous paraît un peu étrange. Mais quand on parle de tente, nous, on pense plutôt à ces chapiteaux qui sont utilisés lors des mariages. Mais pour un Israélite, c'est très différent. Une tente, ça signifie une seule chose, c'est leur maison. C'est leur maison. Ils étaient des nomades, ils vivaient sous des tentes. Dieu était descendu leur rendre visite sur le mont Sinaï. On a terminé le chapitre 24 là-dessus. Et il allait maintenant demeurer, devenir leur voisin. Il allait habiter parmi son peuple. L'Éternel ordonne, dans le chapitre 25, verset 8, là, « Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. » Et le spécialiste du Nouveau Testament, Verne Poitres, dit « Sa tente avait des chambres, une cour et un foyer, tout comme les leurs. » Dieu va habiter au milieu d'eux. C'est la présence de l'Éternel qui importe ici. Revenons encore à un autre élément, le chandelier. Il symbolise un arbre. Et il brûle en permanence, ce chandelier, sans jamais se consumer. On doit sans arrêt remettre de l'huile. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais au chapitre 3 de l'Exode, il y a eu ce buisson ardent. Là, dans un lieu sacré, Dieu est apparu à Moïse, au sein d'un arbre qui brûlait et qui ne se consumait pas. Le tabernacle reproduit en quelque sorte cette expérience, mais en continu. Parce que ce chandelier va brûler en continu. Dieu est présent en continu. Et le thème de la présence de Dieu se rencontre tout au long du récit sur le tabernacle. On a vu dans la description des objets qu'il y a aussi toutes ces barres sur la table, sur le coffre. Parce que ces ustensiles, on va devoir les transporter. Dieu habite dans une tente afin de pouvoir voyager avec son peuple. À chaque fois que le peuple va changer de lieu, ils vont démonter le tabernacle soigneusement et ils vont transporter les objets qui le composent. Dieu vit comme en Éden au milieu de son peuple. Le tabernacle renvoie bien à l'Éden et il fait écho à notre véritable demeure. Le coffre, d'abord. Le coffre nous parle de vivre sous le règne de Dieu. Le coffre de l'Arche de l'Alliance, il a les mêmes proportions qu'un marchepied d'un roi de l'Antiquité. Lorsqu'il siégeait sur son trône, il avait un marchepied sur lequel il posait ses pieds. Mais Israël, lui, n'est pas gouverné par un homme. Son roi, c'est Dieu, et il règne depuis le ciel. Il est en quelque sorte assis sur son trône céleste, et l'Arche de l'Alliance est son marchepied sur la terre. Et d'ailleurs, lorsque le prophète Ésaïe a une vision de Dieu qui siège sur son trône dans le chapitre 6, il nous est dit qu'il voit uniquement la frange du vêtement du bas. Il voit seulement la frange du vêtement de Dieu qui règne au ciel. Il voit seulement dépasser le vêtement de Dieu dans le temple. Et Dieu dit de déposer dans le coffre cet acte de l'alliance que je te donnerai. Cet acte de l'alliance, c'est les commandements de Dieu. Et en effet, Dieu va régner, va gouverner son peuple par l'intermédiaire de cette loi. Ce sera ainsi qu'il va gouverner son peuple. Il dit, un peu plus tard, au sujet de ce lieu-là, entre les deux chérubins au-dessus du propitiatoire, c'est là que je me manifesterai à toi, c'est là que je te communiquerai tous mes ordres pour les Israélites. En Éden, l'humanité a rejeté l'autorité du Père Céleste et s'en est suivi un chaos, la violence, les conflits, la condamnation. Mais dans sa nouvelle demeure, Dieu va restaurer sa loi d'amour qui sera source de vie. Et sur ce coffre, il y a ce couvercle, ou appelé propitiatoire. Tout dépend comment il est traduit. Mais cette idée de couverture, et cette idée de couverture nous parle de Dieu qui va couvrir les péchés. Vous voyez, dans ce coffre, il y a l'acte de l'alliance, il y a la loi de Dieu. Et au-dessus se trouve ce couvercle, ce propitiatoire, parce que c'est là qu'on va verser le sang des sacrifices. Ce sang qui permet d'être pardonné par Dieu, ce sang va être versé dessus. Et ce couvercle-là va symboliser que nous pouvons être, que nos péchés peuvent être couverts. Nos péchés peuvent être couverts. Il nous couvre de la condamnation de la loi, autrement dit. Et le Nouveau Testament nous apprend que c'est le sang de Jésus qui est ce sacrifice expiatoire qui couvre la condamnation de notre péché afin que nous puissions recevoir sa miséricorde. Le coffre nous parle du règne de Dieu. Sa loi est là, c'est ainsi qu'il gouverne son peuple. Ensuite, on a une table. Sur la droite, là, on a cette table ici avec des pains. Cette table-là nous parle de la communion avec Dieu, nous parle de manger avec Dieu, en fait. Dans la plupart des foyers, on mange autour d'une table, et c'est là que se réunit la famille, parfois des invités pour partager un repas, pour partager l'amitié. Et dans ce tabernacle, qui est une sorte de prototype de la maison de Dieu, se trouve une table. Dieu n'a pas faim. Non. Ce pain qui est sur cette table, c'est le signe permanent de l'invitation de Dieu à nous réjouir dans le cercle de sa présence. Le pain de la présence était constitué de 12 pains disposés en deux rangées de 6 et ces pains étaient remplacés chaque semaine. Ces 12 pains, c'est un pain pour chaque tribu d'Israël. Il y avait 12 tribus en Israël. Ça signifiait que tous les membres du peuple de Dieu étaient les bienvenus pour manger avec lui. Cette table nous parle de cette communion avec Dieu, de manger avec Dieu. Et puis enfin le chandelier, qui nous parle de cette lumière de Dieu. Certes, le chandelier ressemble à l'arbre de vie, on l'a dit, comment il est ouvragé, mais c'est avant tout une source de lumière qui éclaire la nouvelle maison de Dieu. Cette maison témoin de Dieu, puisqu'elle est construite selon le modèle de la maison de Dieu que Moïse a vu sur la montagne, c'est à la fois le lieu de vie et le lieu de lumière. On le voit ici, là, du coup, à gauche. Tous ces éléments, ce mobilier, nous permettent, en quelque sorte, de retrouver le chemin de la maison, de retrouver cet Éden. Il nous parle de cette présence d'avec Dieu et tous les éléments qui sont ici nous parlent de cette communion avec Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le Nouveau Testament, Jean, dans son évangile, nous dit que la parole est devenue chair. Dieu le Fils s'est fait homme. Et il nous a dit, elle a fait sa demeure parmi nous. Dieu est venu habiter parmi nous. Mais cette fois-ci, en chair et en os, il est venu parmi nous. Et le mot qui est utilisé par les traducteurs de l'Ancien Testament en grec ont utilisé le même mot « demeure » pour désigner le tabernacle. Et si on pouvait dire les choses plus littéralement dans l'évangile de Jean, selon Jean, Jésus, la parole, a tabernaclé parmi nous. Il a habité parmi nous. Jésus est à la fois notre maison et le chemin vers la maison. Dieu a habité parmi nous en la personne de Jésus afin de nous ramener à la maison et nous faire vivre en sa présence. Jésus, c'est le point de rencontre entre le ciel et la terre. C'était un peu ça, le tabernacle. C'était ce lieu où Dieu allait se rendre présent pour son peuple, en ce lieu précis au milieu de son peuple. Mais Jésus est le véritable tabernacle, le véritable temple, le point de rencontre entre le ciel et la terre. Et le tabernacle va diriger nos regards vers Jésus. Jésus, c'est le véritable coffre de l'Alliance. Là où Jésus se trouve, nous vivons sous le règne de Dieu. C'est par l'intermédiaire du roi Jésus que Dieu règne. Jésus, c'est le véritable pain. Il est le pain que nous mangeons quand nous mangeons dans la présence de Dieu. Jésus a dit, c'est moi qui suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, plus jamais faim. Jésus est la véritable source de clarté. Il est la lumière de Dieu. Et c'est dans cette lumière-là que nous marchons. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Autrement dit, Jésus comble parfaitement notre aspiration à rentrer chez nous. Il est notre véritable foyer, notre véritable destination. Tous les poteaux indicateurs du tabernacle orientent nos regards vers Jésus. Et Augustin, l'un des pères de l'Église, a dit ceci, et il avait raison. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Vous voyez, cette aspiration à rentrer à la maison, cette aspiration à retrouver la communion avec Dieu qui nous habite. Parce que Dieu nous a fait pour lui. Il nous a fait pour vivre en sa présence. Et nos cœurs aspirent à cela. Et tant que notre cœur n'a pas trouvé ce qu'il cherche, cette communion avec Dieu, notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Jésus est ce lieu où nous pouvons trouver à la fois le chemin et la communion avec Dieu lui-même. Et je vais terminer avec un élément du temple qu'on n'a pas décrit ici, c'est dans le chapitre suivant, ça aurait été un peu fastidieux. On s'est intéressé d'abord au coffre qui nous parle de comment Dieu règne, exerce son règne par sa loi qui est dans ce coffre. On a parlé de la table qui nous parle de cette invitation à être avec Dieu, à partager un repas. On a parlé de ce chandelier qui nous parle de la lumière de Dieu qui est présent là, H24. Ce chandelier, il n'est jamais éteint. Mais il y a aussi cet élément-là. Lorsqu'on rentre dans le temple, et ici, c'est le lieu qu'on appelle le lieu saint, c'est un endroit qui est réservé aux prêtres. Et ici, on a un lieu qui est désigné comme très saint. C'est le lieu où Dieu est présent. Particulièrement, c'est là où Moïse entre pour recevoir les instructions de Dieu pour son peuple. Et ici, là évidemment, c'est une coupe, hein, mais le rideau, il traverse complètement. Et il sépare ce lieu saint du lieu très saint. Quand on rentre, il y a cet épais rideau qui se dresse devant vous et qui vous empêche de rentrer dans la sainte présence de Dieu. Dans le chapitre 26, il est dit « Tu feras un voile en laine de pourpre violette, de pourpre écarlate, de rouge éclatant et de fin lin botor, et tu y feras broder des chérubins par des artisans. Tu le suspendras à quatre piliers d'acacia plaqué or, muni de crochets d'or et posé sur quatre socles d'argent. Tu fixeras le voile sous les agrafes. » Il y a ce voile dans lequel sont brodés des chérubins. Des chérubins, c'est un emprunt à ces créatures qui gardaient les temples en Mésopotamie. Chez les Mésopotamiens, c'était ces êtres à corps d'animal et à tête humaine qui étaient des gardiens du temple. Et ici, il y a aussi des gardiens qui sont brodés dessus. Pourquoi ? Pour nous empêcher d'accéder à la présence de Dieu. Parce que si on rentre en présence de Dieu, on meurt. Et d'ailleurs, il était extrêmement codifié l'accès dans ce lieu très saint. Moïse pouvait y rentrer, mais sinon c'était une seule fois par an, le grand prêtre, après avoir fait tout un tas de protocoles pour s'avancer vers Dieu, tout un tas de sacrifices, il pouvait rentrer une fois par an là, dans le lieu très saint. Parce que la présence de Dieu y est dans toute sa gloire. Des chérubins gardent le chemin du retour vers Dieu. Parce que si on va directement en présence de Dieu, on est foudroyé à cause du péché qui nous habite. On ne peut pas se tenir en présence de Dieu. Il y a un problème. Pour accéder et revenir à Dieu pleinement, on ne peut pas revenir comme ça. Ce voile, c'est ce grand symbole de l'inaccessibilité de Dieu. Ils ont empêché d'être en contact avec Dieu. Et le Nouveau Testament nous apprend quelque chose d'incroyable. À la mort de Jésus, c'est l'évangile selon Matthieu, par exemple, au chapitre 27, qui nous le rapporte. Jésus meurt sur la croix. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici qu'au même instant, le rideau du temple se déchira en deux, de haut en bas. Le temple, c'est ce qui succédera à cette habitation temporaire. Ça sera un temple en dur, mais ça sera exactement le même principe que dans ce tabernacle. À la mort de Jésus, le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré de haut en bas. L'agencement du tabernacle a été profondément remanié. Le chemin du retour à Dieu est désormais ouvert. Lorsqu'on lit dans tous ces chapitres, toutes ces prescriptions, dans le livre de l'Exode, et dans d'autres livres encore où Dieu donne ses instructions, on se rend compte de qui est Dieu. On pourrait se dire à quoi nous servent ces textes. Ces textes nous disent qui est Dieu. Ils nous disent qu'il est saint. Chaque partie, chaque chose est disposée comme Dieu le veut. Il y a des degrés de sainteté, comme je vous ai dit, on ne s'approche pas pareil. Seul un prêtre peut rentrer ici. Le grand prêtre, une fois par an, après avoir fait l'expiation des péchés, il y a des degrés de sainteté, on ne se présente pas comme ça devant Dieu. Tous ces textes nous parlent de cela. Ils nous parlent à la fois de cette aspiration à être en communion avec Dieu. Dieu vient habiter parmi son peuple à cet endroit-là, mais en même temps, attention, on ne peut pas accéder à sa présence comme ça. Dieu n'est pas notre copain, Dieu n'est pas n'importe qui. Il est le Dieu, trois fois saint, pur. On peut l'approcher ainsi. Mais il y a quelque chose de radicalement nouveau qui a lieu en Jésus-Christ, celui qui est Dieu parmi les hommes, celui qui a posé sa tente c'est sa personne même, il est venu habiter parmi les hommes lui-même. Tim Chester termine avec une remarque sur ce chandelier qui brûle en permanence. Il y voit quelque chose comme Dieu qui est à la maison. Il y a une lumière dans la maison de Dieu. Il y a une lumière qui est là, comme quand on aspire à rentrer chez soi, on voit sa maison loin, on voit la lumière et allumée, il y a quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est prêt à nous accueillir, qui a du pain sur la table. Dieu est là. Et il nous dit, si vous êtes loin de Dieu, alors revenez à la maison dès aujourd'hui. Pour revenir à sa question du début, il dit, si vous êtes un nomade, mettez votre amour de l'aventure au service de la gloire de Christ. Allez et faites des disciples de toutes les nations, et où que vous alliez, et qu'importe la situation, développez un sens profond du contentement. Ne croyez pas que le bonheur vous attend toujours un peu plus loin sur votre chemin, après la prochaine colline. Ne soyez pas de ceux qui courent d'un endroit après l'autre pour avoir toutes les nouveautés, pour enfin trouver votre maison. Soyez pleinement satisfaits en Christ et servez-le maintenant où vous êtes. Si vous êtes plutôt sédentaire, alors transformez avec amour votre foyer pour en faire un lieu accueillant pour Christ. Ouvrez votre maison à votre église, à vos voisins, aux démunis. Mais veillez à ce que votre maison serve votre engagement plus qu'elle ne l'entrave. N'en faites pas un lieu sacré, un château fort avec un pont-levis. Assurez-vous que Christ entre en premier et que votre porte reste toujours ouverte. Ne vous souciez pas de l'ordre et de la propreté au point de mettre les gens mal à l'aise. Ne vous occupez pas de votre petite famille au point d'en fermer l'accès aux autres. Ne laissez pas les activités de vos enfants vous voler tout votre temps au point d'en manquer pour votre vie sociale et pour la mission. Assurez-vous que le foyer qui compte vraiment pour vous est celui que vous avez retrouvé en Christ. Souvenez-vous de l'agencement du tabernacle, c'est le plan de notre vraie maison. Il nous rappelle notre grand privilège de pouvoir rentrer à la maison, dans la présence de Dieu. La lumière est allumée, il y a du pain sur la table. Ces textes sur le tabernacle nous parlent de qui est Dieu. Il nous parle de cette présence de Dieu à laquelle nous aspirons. Cette aspiration profonde qui fait que notre cœur est sans repos tant que nous n'avons pas trouvé, tant qu'il ne demeure pas en Jésus-Christ.